franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Patrick et bonjour à tous. Il y a parfois des décisions qui ne passent pas, vraiment pas, des décisions qui choquent et alimentent la rancœur des citoyens, des décisions qui donnent l'impression qu'en France, il existe une caste de gens protégés, soit protégés par le pouvoir, soit protégés par leur statut, et parfois par les deux, par le pouvoir, par leur statut. Prenez le cas d'Agnès Salle, présidente de l'INA, jusqu'à il y a quelques semaines, et contrainte à la démission après le scandale provoqué par ses dépenses de taxi. 40 000 euros en 10 mois, alors qu'elle disposait d'une voiture de fonction, voiture avec chauffeur, 40 000 euros remboursés par l'INA, et une partie des frais qui en réalité correspondaient à des trajets accomplis par son fils. Scandale, donc, démission, mais cette semaine, on a appris que l'ex-présidente de l'Institut National de l'Audiovisuel avait déjà été recasée, Agnès Salle, est réintégrée au ministère de la Culture en qualité de chargée de mission, ce qui relance la controverse sur les privilèges dont bénéficieraient les serviteurs de l'État, y compris lorsqu'ils ont été pris en faute. Sont-ils vraiment intouchables ? S'interroge ainsi le Parisien à sa une, avec un dossier de 2 pages sur l'impunité supposée des hauts fonctionnaires. Analyse de Jean-Luc Touly, co-auteur du livre « Les recasés de la République ». Il est relativement classique, explique-t-il, que les hauts fonctionnaires échappent aux sanctions. Néanmoins, cette affaire est proprement hors du commun quand on voit, dit-il, la rapidité avec laquelle Agnès Salle a été recasée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Sa hiérarchie aurait dû entamer une procédure disciplinaire à son encontre. À minima, elle aurait dû écoper d'une suspension. Alors certains diront qu'elle a déjà subi une rétrogradation. Le poste de chargé de mission, c'est une rétrogradation. N'empêche, le mal est fait, commente Frédéric Vézard dans son éditorial, en précisant que cette affaire, gérée avec une extrême maladresse, ravive le sentiment que le public et le privé sont en France 2 mondes parallèles. Une aubaine pour les populistes et une malédiction pour les vrais serviteurs de l'État. 2 mondes, en effet. Et la polémique continue d'enfler sur les réseaux sociaux. Hier, sur Twitter, un internaute comparait ainsi les 40 000 euros de taxi de cet énarque sans scrupule avec ce SDF de Strasbourg, condamné en juillet dernier à 4 mois de prison ferme pour avoir volé dans le tronc de la cathédrale la somme faramineuse de 17 euros. Et pour lui, pas de pitié, il a immédiatement été interpellé par les services de police.
C'est à pleurer. Et ce matin, on retrouve la photo d'un autre célèbre fraudeur en manchette de la Dépêche du Midi.
Jérôme Cahuzac. Mais oui, le voilà, le revoilà. Le retour discret de Jérôme Cahuzac, titre Le Quotidien. L'ancien ministre du Budget, viré pour fraude fiscale du gouvernement, a animé, il y a quelques jours dans son département, une réunion de 300 personnes. C'était l'occasion de rencontrer des amis et d'expliquer ce que je deviens, a-t-il confié, l'information étant que Jérôme Cahuzac a encore des amis. On ne sait pas toutefois s'il a participé au vote sur les motions du Parti Socialiste, celle du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis a rassemblé 60% des voix des militants. Motion soutenue par Manuel Valls et son gouvernement, mais aussi par Martine Aubry. De regard, 2 points de vue dans les journaux ce matin. Il y a ceux qui constatent, voire applaudissent le succès. Cambadélis haut la main, souligne l'indépendant, expliquant que son score conforte la politique du chef de l'État. Et puis il y a ceux qui se désolent. L'austérité majoritaire, titre l'écho de la Haute-Vienne, qui estime que cette victoire ne donne aucun signe d'espoir. Même sentiment pour la Marseillaise, qui parle d'une occasion manquée, PS, l'interminable attente du changement. Du reste, les fédérations ne sont pas toutes sur la même ligne. Le courrier Picard nous apprend ainsi que la motion Cambadélis a été mise en minorité dans la Somme. N'empêche, maintenant, François Hollande met le cap sur 2017, titre Le Figaro. Une étape après l'autre, le chef de l'État prépare sa candidature pour la prochaine présidentielle. Pour la droite, cette candidature ne fait plus de doute aujourd'hui. Les responsables de l'UMP redoutent même, d'après le journal, l'habileté technicienne du président de la République. Confidence d'une de ses responsables l'a toujours inspiré, Nadine Morano. Hollande est un mauvais président, certes, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il a toujours eu un sens aigu de son intérêt stratégique personnel. Une étape après l'autre, Hollande se préparerait donc dans la foulée du congrès de Poitiers. Il devrait ajuster son gouvernement. que deux nouvelles femmes devraient intégrer, mais le Figaro ne donne pas les noms des deux femmes en question. Espérons qu'Agnès Sahl n'est pas sur les rangs. Puis il va se démultiplier, le président de la République, se démultiplier sur le terrain, Limoges, Marseille, Tulle, Nantes, Angers, Bordeaux, Lyon. Et puis, dès mercredi prochain, il donnera dans un discours son idée de la France à l'occasion de la panthéonisation de quatre grandes figures de la Résistance, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay. Un discours donc au Panthéon pour le chef de l'État, mais un discours qui relève du défi. Défi très compliqué, lire à ce propos le papier de Benoît Hopquin dans M, le magazine du Monde, l'ombre de Malraux.
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Les mots d'André Malraux devant le cercueil de Jean Moulin, c'est la référence en matière d'hommage posthume. D'où coup nous explique mon confrère de M. Chaque fois qu'il s'est agi de s'exprimer au Panthéon, les plumes des présidents de la République se sont souvent cassées la tête quand ils ne se sont pas tout simplement cassés les dents. Très compliqué d'écrire un discours de panthéonisation. Sans doute François Hollande devrait-il du coup faire le choix, nous dit-on, le choix de la sobriété, histoire de ne pas être comparé à Malraux. Et puis avant la présidentielle de 2017, élection pour laquelle, soit dit en passant, les trois quarts des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente, résultat d'un sondage Odoxa pour Le Parisien. Avant donc la présidentielle, il y aura les régionales à l'automne prochain. À droite, certains ne croient pas trop aux chances de Valérie Pécresse en Ile-de-France, où elle affrontera notamment le socialiste Claude Bartolone, mais également l'ancienne ministre des Sports Chantal Jouanneau, étiquetée UDI. Pierre Charon, sénateur UMP Paris, plaide du coup pour que Pécresse négocie un accord avec la candidate de l'UDI dès le premier tour. Il est temps, dit-il, que Jouanneau rentre à la niche. C'est ce qui s'appelle savoir parler aux femmes, souligne Le Point qui rapporte cette petite phrase.
Le Point qui se fait également l'écho d'une nouvelle étude sur les effets de la pollution.
Alerte pour les cerveaux de nos gentils bambins, Patricia. Une étude espagnole menée dans une quarantaine d'écoles de Barcelone sur près de 3000 élèves âgés de 7 à 10 ans. Pendant 12 mois, les chercheurs ont mesuré leur capacité à mémoriser les leçons de leurs professeurs et ceci à travers différents tests utilisés en neurosciences. Conclusion. Les enfants qui obtiennent les moins bons résultats sont généralement ceux qui sont le plus exposés à la pollution de l'air. Carbone noir et dioxyde d'azote qu'ils respirent en classe et en cours de récréation. Les retards cognitifs de certains pourraient donc en partie être dus au trafic. Les gaz d'échappement des voitures, beaucoup d'écoles de Barcelone étant situées juste à côté de routes très encombrées. La pollution nuit au cerveau, c'est le titre du papier. Confirmation avec le dossier de Politis cette semaine, titre choc. Là encore, respirer tue. Quitter son pays peut tuer. Également, tous les matins, la presse nous raconte de nouveaux drames des migrants qui trouvent la mort en Méditerranée. Mais sur le fond, que dire? Que penser de la situation? Que penser, plus généralement, de l'immigration? Ce matin, Libération propose un dossier de 6 pages sur l'immigration. 10 idées fausses sur l'immigration. Je vous en livre 5. Il y a une déferlante sur l'Europe via la Méditerranée, dit-on souvent. Faux. Les migrants illégaux arrivés en 2014 représentent 0,05% de la population. Une masse importante, certes, mais gérable si tous les pays y prenaient leur part. Deuxième idée. L'Europe est la principale destination des réfugiés qui vont tous vers le nord. Faux. L'Asie est la principale concernée, accueillant plus de 10 millions de personnes devant l'Afrique et l'Europe. L'Europe n'arrive que troisième. Troisième idée, la France est un pays d'immigration massive. Faux. En France, en moyenne, 200 000 immigrés entrent tous les ans, soit 0,3% de la population. Deux autres idées, la France ne peut accueillir toute la misère du monde, c'est faux. Des terroristes peuvent se glisser parmi les migrants, c'est faux. Nous n'avons aucun exemple de ce genre.
Quoi d'autre à retenir dans la presse aujourd'hui, Frédéric?
L'histoire du jour, c'est l'Ardennais qui la raconte, la mésaventure de René, un septuagénaire cycliste à 16 heures qui se baladait tranquillement sur les bords de la Meuse. Lorsqu'un groupe de volatiles s'en est violemment pris à lui, en l'occurrence c'était des oies, c'est méchant les oies quand ça veut. Elles lui ont barré la route, elles l'ont fait tomber de son vélo, elles se sont acharnées sur lui. Bilan de la promenade pour René, 4 points de suture à la tête et pour le voleurs, les oies délinquantes n'ont pas été interpellées par la police. Enfin, dans Le Parisien, un papier sur l'Eurovision. Et cette question, la France veut-elle vraiment gagner? Notre candidate s'appelle Lisa Angel.
Je me souviens du rire des enfants.
Non. On n'a rien fait de mal, Frédéric Pommier. Je ne vois pas pourquoi vous nous punissez.
Réponse à la question. Non, la France ne veut pas gagner et les auteurs de la chanson n'ont toujours pas été interpellés.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.